Nesrin Slaoui au Bleuet, DAPT à Sciences Po.
Née au Maroc et arrivée en France à l'âge de 3 ans, Nesrin Slaoui a un parcours atypique. Une femme maghrébine et d'origine populaire peut-elle prétendre atteindre l'élite intellectuelle française? C'était le rêve de la jeune aptésienne durant sa scolarité qu'elle a réalisé à force d'abnégation et de travail et avec l'appui constant de ses parents. Malgré les difficultés quotidiennes, les avis dubitatifs de professeurs notamment et un nom qui affiche ses origines, l'excellente élève parvient à son but, faire Sciences Po, et exerce aujourd'hui le métier de journaliste dans une sphère où elle détonne. Elle a mis à profit le premier confinement début 2020 pour s'échapper de la capitale et retourner à Apt chez ses parents afin de mettre noir sur blanc son parcours et ses obstacles. Ainsi est née Illégitime, publiée par Fayard, où elle évoque les préjugés de la société française et ses propres aspirations. Un livre passionnant, tant son chemin semé d'embûches nous questionne sur la jeunesse, les immigrés, la culture et la classe dominante, voire les stéréotypes de part et d'autre. Citant Jean-Paul Sartre, Pierre Bourdieu, Gisèle Halimi, Annie Ernaux, Jack London ou Alice Zeniter, autant que Diams, IAM ou PNL et Kerry James, Nesrin Slaoui donne les clés pour appréhender une jeunesse méconnue et incomprise. En attendant que son livre soit lu et apprécié à sa juste valeur par nos dirigeants, issus comme elle de Sciences Po mais aussi de l'ENA, Polytechnique, HEC ou d'ailleurs. Accueillie au Bleuet par Marc et Sabine Gaucheran qui ont brillamment animé la rencontre de Bannon, Nesrin Slaoui répond à mes légitimes questions sur Illégitime. Nesrin Slaoui, vous venez d'écrire Illégitime. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que je, pour que vous et pour que nous, vous pensions enfin légitimes?
Déjà, il faut que moi, j'arrête de courir derrière la légitimité. Je pense que c'est le plus grand travail de ma vie, c'est d'arrêter de vouloir être légitime. C'est pour ça que le titre de ce livre est comme ça, et ça s'appelle Illégitime, parce que c'est une revendication. Ce n'est pas ni une insulte, ni quelque chose de dégradant. C'est un renoncement d'être légitime, parce que les codes de la légitimité, c'est des codes qui sont bourgeois, et donc forcément pour moi, très archaïques.
C'est un livre qui raconte votre histoire, votre parcours.
Totalement, c'est mon histoire de jeune fille issue de l'immigration maghrébine qui a grandi avec sa famille dans le sud de la France, à Apt, dans cette ville-là, et qui part ensuite à Grenoble, puis finalement à Paris, là où je voulais partir, là, mon rêve initial pour devenir journaliste, donc dans un milieu très, très élitiste au final. C'est ce récit-là, et c'est un récit qui est à la fois un récit de réussite, mais c'est aussi et surtout un récit de violence de classe. C'est surtout ce que j'ai voulu raconter, c'est à quel point tout est fait pour que les personnes issues du milieu populaire et de l'immigration n'accèdent pas à ces institutions-là.
On vous a dissuadé depuis l'école déjà de suivre ce parcours?
Oui, totalement. J'ai eu à la fois des professeurs qui m'ont encouragé à faire Sciences Po, qui m'ont encouragé à avoir ce parcours-là, et puis des professeurs qui m'ont au contraire dissuadé, qui m'ont rappelé que c'était pas pour les gens comme moi. Et quand ils disaient des gens comme moi, c'était des gens qui n'avaient pas assez de culture générale. Et quand ils parlaient de culture générale, ils parlaient de cette culture-là valorisée socialement qui est la culture bourgeoise. Et effectivement, je n'étais pas issue de ces milieux aisés. Donc j'ai dû me confronter parfois aussi à des remarques très vexantes de la part de certains professeurs.
Jusqu'à certains camarades qui vous ont dit, par exemple, tu prends la place de ma sœur.
Oui, ce qui est le plus partagé, c'est cet élitisme-là. Effectivement, ça peut venir à la fois parfois des professeurs, parfois de vos camarades. Et quand ça vient des camarades, c'est peut-être même parfois plus violent parce que c'est des personnes de votre âge, c'est des personnes à qui vous voulez plaire, avec qui vous voulez développer parfois de l'amitié. Donc non, ça a été mes premières années, mes premiers jours, même à Sciences Po, ont été très compliqués là-dessus parce qu'on me renvoyait cette idée que j'étais une intrusion. Et c'est jamais très facile de le vivre quand tout un monde vous rejette et quand tous vos camarades vous rejettent.
Et puis il y a une structure particulière chez vous, et cette structure, il y a un mot qui la concerne bien, c'est mimétisme, très étrange.
Oui, c'est le fait de vouloir changer pour être accepté, de vouloir se conformer au maximum à ce qu'on attend de nous. C'est pour ça que je dis que pour moi, le travail que je fais au quotidien, c'est le renoncement de la légitimité, parce que je veux renoncer à ce mimétisme. Je veux renoncer définitivement au fait de devoir copier les personnes qui sont valorisées socialement pour être acceptées dans la société, parce que j'ai compris que qu'importe mon degré de mimétisme, je ne serai jamais de toute façon bourgeoise, je ne serai jamais un homme, je suis une femme. Donc il y a plein de choses comme ça que je refuse d'être. Il faut que j'accepte à un moment donné toutes les facettes de ma personnalité qui sont aussi souvent discriminées.
Et comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à la communauté maghrébine, par exemple ?
J'en suis déjà issue, je suis issue de l'immigration maghrébine et je sais que certains voient dans mon histoire de la fierté de pouvoir se reconnaître, de pouvoir s'identifier, et on est surtout très nombreux, même si on n'est pas assez nombreux, c'est là où il y a une nuance, on n'est pas assez nombreux dans les institutions, mais il y a beaucoup de personnes qui ont lu mon livre, qui sont issues de l'immigration maghrébine ou qui sont simplement issues de milieux populaires aussi, qui ont vécu ce que j'ai vécu, et donc finalement c'est une autre communauté qui se crée, une communauté de solidarité en tout cas entre personnes qui ont vécu ces parcours-là, et c'est une communauté qui heureusement ne connaît pas de barrière ethnique, c'est-à-dire qu'il y a des personnes noires qui se reconnaissent dans mon histoire, des personnes blanches qui se reconnaissent dans mon histoire, des personnes asiatiques, des personnes maghrébines, donc il y a vraiment une autre communauté qui se crée de transclasse, de transfuge, en tout cas moi de ce que je préfère appeler des chevaux à bascule entre deux mondes sociaux.
Vous êtes actuellement, Nesrin Slaoui, journaliste, et c'est un fait divers qui a fait que vous pratiquez ce métier, c'est l'affaire Ziad Ebouna.
Oui, c'est l'affaire de Ziad Ebouna. Donc, c'est des deux jeunes hommes qui sont morts à Clichy-sous-Bois le 25 octobre 2005 et qui sont morts après que des policiers les aient poursuivis. Ils sont morts dans un transformateur EDF. Et moi, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'était le traitement médiatique qui avait été fait à l'époque, parce qu'on présentait les personnes issues de l'immigration comme des racailles, des voyous. Nicolas Sarkozy, à l'époque, avait dit qu'il fallait carchériser les banlieues. Et nous étions les banlieues. Donc, nous étions les gens qu'il voulait carchériser. Quand vous entendez ces propos concernant votre identité, ce n'est pas facile. Et moi, je me suis dit, très très jeune, que je voulais en fait devenir journaliste pour raconter ces histoires-là, pour raconter ces histoires de quartiers populaires qui sont très très loin de la violence au final, qui sont, en tout cas moi je n'ai pas vécu dans de la violence, je n'ai pas vécu dans de la radicalité, je n'ai pas vécu dans un milieu hostile finalement, j'ai vécu dans un milieu prolétaire qui a ses travers et ses points positifs, mais en tout cas je ne voulais plus de cette étiquette stigmatisante à coller sur nos histoires, et j'en avais marre aussi qu'on dépeigne la banlieue comme un endroit qui se détériore en permanence et dont il n'a rien à tirer. Je trouve qu'il y a énormément de talent justement dans ces banlieues-là, que ce soit dans l'art, dans tous les domaines finalement. Il n'y a pas notamment que des sportifs, parce qu'on met souvent en avant les joueurs de l'équipe de France de football, dont on est très fiers, mais il y a aussi d'autres parcours qu'il faut saluer et que moi j'essaie d'encourager à ma façon à travers ce livre.
C'est pour ça que vous citez très souvent des rappeurs dans votre livre ?
Totalement, parce que ça participe de ma culture et moi c'est ma première approche de la sociologie, c'est le rap, c'est parce que je lisais dans le rap le fonctionnement social et la violence sociale et c'était les textes qui ont bercé mon adolescence quand j'essayais de comprendre. Je le dis à un moment dans le livre que moi je montais souvent quand j'étais dans mon quartier populaire, dans mon appartement, dans ma chambre, je regardais souvent à l'horizon et je me demandais toujours qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière la colline, qu'est-ce qu'il y a derrière les bâtiments, pourquoi on est là, pourquoi on est ici, pourquoi on n'est pas ailleurs, pourquoi il y en a qui sont à Paris, d'autres qui sont dans le sud. Et donc je me questionnais justement sur notre rapport à la société et comment l'endroit dans lequel on vit, dans lequel on grandit, influence sur le reste de notre vie. Et moi, c'est le rap qui a d'abord répondu à cette question, puis après, c'est la sociologie qui a répondu à cette question. Et finalement, je suis le mélange de ces deux savoirs-là qui, pour moi, sont des... Je sais que c'est parfois provocant de le dire, mais pour moi, qui sont des savoirs qui se vouent, en tout cas dans ma construction personnelle. Les deux m'ont apporté des choses essentielles pour ma construction intellectuelle.
Il y a un autre élément qui vous a apporté énormément, évidemment, c'est la famille. Vous en parlez très bien, votre père qui ne maîtrisait pas la langue française, mais aussi votre grand-père, votre arrière-grand-mère. Et là, il y a des rencontres de femmes et d'enfants avec une génération précédente qui sont très poignantes.
Oui, je voulais aussi leur rendre hommage, aussi d'une certaine façon. Je voulais raconter les histoires de mes grands-parents et de mes parents qui ressemblent en fait aux histoires de plein de personnes issues de l'immigration maghrébine en France. Et c'était à la fois une volonté de leur rendre hommage, mais ce n'était pas forcément facile à faire parce que c'est compliqué aussi de se confronter à quoi sa famille a vécu, notamment à ses grands-parents, parce que au-delà de le fait que je suis journaliste et que j'ai essayé de les interviewer en tant que journaliste, je suis aussi leur fille, leur petite fille. Donc ce qu'ils ont vécu me touche justement par amour, par lien affectif qu'il y a entre nous. Donc non, c'était pour moi, c'était essentiel de ne pas faire... Et puis ça explique forcément mon parcours. Je ne peux pas raconter mon histoire sans raconter l'histoire des miens et de comment je suis arrivée en France. Parce que si je suis arrivée en France, c'est parce que mon grand-père a quitté le Maroc dans les années 70 et qu'il s'est installé ici. S'il n'avait pas fait ce parcours-là, peut-être que je ne serais jamais arrivée en France.
Nesrin Slaoui, vous avez profité, entre guillemets, du confinement pour venir vous réfugier à Apt, comme vous dites. Ça vous a permis de vous retourner sur votre parcours vous-même, vous regarder dans la glace ?
Totalement. Comme je dis dans le livre, j'en ai profité pour arpenter le fossé qui me sépare des miens. C'était le moment où je pouvais me plonger dans tout ce que j'avais essayé de camoufler, de rejeter, de ne pas analyser, ou alors d'analyser qu'à petite dose de temps en temps quand ça me convenait. Là, j'étais vraiment en position de me dire « Ok, je suis revenue au point de départ. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que tu es partie ? Qu'est-ce qui a changé en toi ? Qu'est-ce qui a changé dans ton rapport avec les tiens ? Est-ce que tu les as trahis ? Est-ce que tu ne les as pas trahis ? Est-ce qu'il y a des moments où tu as été violente avec eux ? En termes de violence de classe, hein, pas physiquement. Est-ce qu'il y a dans mes propos, je leur ai renvoyé la violence de classe que moi-même je vivais, c'est-à-dire de la violence symbolique qui est propre à nous les transfuges de classe, en tout cas les chevaux voix bascule. Donc ça me permettait de faire une introspection et de me regarder. J'ai essayé de, parce que je ne suis pas sociologue, mais j'ai essayé en tout cas de me regarder d'un point de vue sociologique et de regarder toute mon histoire d'un point de vue sociologique.
Et puis il y a quelque chose qui a changé chez vous, et vous le regrettez peut-être, vous allez nous le dire, c'est votre accent.
Oui, mais en fait c'est assez particulier, mais quand on est journaliste à Paris, on doit gommer son accent du Sud, à moins qu'on fasse, c'est très caricatural ce que je vais dire, mais c'est vrai, mais il n'y a que dans le sport où c'est toléré, ou dans des choses comme ça, mais quand on veut faire de l'information générale comme on aime le faire, quand on aime traiter des sujets de société plus large, l'accent du Sud, de n'importe quel Sud, hein, je parle aussi bien de l'accent du Sud-Est que l'accent du Sud-Est, et ce sont des accents très très mal vus, et sont considérés comme des accents pas sérieux, donc moi on m'a fait plusieurs fois la remarque que je devais le supprimer, et puis là comme vous l'entendez, il n'existe quasiment plus, il revient de temps en temps. Quand je passe un peu trop de temps ici, mais non, il est quasiment totalement effacé.
Il faudra revenir plus souvent, Lord Nesrine. Une dernière question, vous avez prévu une suite à Illégitime?
J'ai prévu d'écrire un autre livre, effectivement je suis toujours chez Fayard pour mon prochain roman qui est pour le coup totalement une fiction, mais ce ne sera pas une suite à Illégitime. Je pense que pour faire une suite à Illégitime, il faudrait encore que je vive 10 ans, il faudrait encore que je vive d'autres expériences pour revenir sur peut-être dans 10 ans comment ça se passe au final, ce parcours-là de transfuge de classe. Est-ce que finalement je vais redevenir totalement prolétaire, est-ce que je vais être toujours dans cette entre-deux, à quel moment en fait je vais trouver une paix sociale intérieure, c'est-à-dire à quel moment je vais calmer mon identité sociale. Je pense qu'il faut encore me laisser du temps pour faire une suite, pour que déjà j'ai des choses à raconter et que j'ai des choses aussi à analyser en termes de vécu, mais en tout cas j'ai prévu en tout cas d'en écrire un autre très prochainement.
Vous avez un thème?
Oui, alors est-ce que je peux en parler? Je sais pas, mais en tout cas cet ouvrage parle beaucoup de social au sens de classe sociale, le prochain va beaucoup plus parler de féminisme, pour le coup ça va être totalement une fiction et je vais m'intéresser à tout ce que vit une femme dans sa vie à la fois professionnelle et à la fois privée.